Pour que la parole de Dieu nous soit utile, comment devons-nous la recevoir? Nous devons la recevoir comme la vérité envoyée d'en haut. Il faut nous laisser instruire par elle, lui soumettre notre intelligence et notre volonté, aimer vraiment cette parole de Dieu et la graver dans notre cœur afin qu'elle plante de solides racines et produisent du fruit dans nos vies. Je vous invite à tourner dans vos Bibles à la première lecture en Genèse 13, 1 à 13, à la page 11 de notre Ancien Testament. Genèse 13, 1 à 13. Avant d'écouter cette lecture, nous allons prier. Quelle joie, Seigneur, de nous mettre à l'écoute de ta parole. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur, en t'adressant à nous de diverses manières pour nous sauver, pour nous sanctifier. Nous désirons méditer ta parole ce matin ensemble avec des cœurs bien disposés. Que ta parole ce matin nourrisse nos âmes, qu'elle soit savoureuse, qu'elle soit pertinente et appropriée pour nos besoins, chacun d'entre nous. Donne-nous la grâce, Seigneur, de voir les choses comme toi tu les vois. Donne-nous des cœurs qui ressemblent aux tiens. Mets tes pensées dans nos pensées, nous t'en prions. Ainsi, nous pourrons te servir joyeusement, avec persévérance et dans ta paix. Par Jésus-Christ, nous le demandons ensemble. Amen. Écoutons donc cette première lecture en Genèse 13, 1 à 13. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguab, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguab jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit, du gros bétail ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays du Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Tournons maintenant dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 6, 1 à 11, à la page 190. 1 Corinthiens 6, 1 à 11. Nous lisons en 1 Corinthiens 6, 1 à 11. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas à plus forte raison les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différends, pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, et ce sont vos frères. Savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Il y a 7 points d'interrogation et 4 points d'exclamation dans cette lecture que nous venons de faire en 1 Corinthiens 6, dans les 9 premiers versets. Si vous recevez une lettre, une courte lettre ou un courriel, et en quelques phrases, il y a 7 points d'interrogation et 4 points d'exclamation, vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est fâché ou quoi? Eh bien, oui, l'apôtre Paul est fâché. L'apôtre Paul est très fâché parce qu'il y a dans l'Église de Corinthe des différends qui ne sont pas réglés selon la parole de Dieu. Le mot « différend » intervient au verset 1 et au verset 4 de notre texte. Un différend, qu'est-ce que c'est? C'est un conflit, une dispute, une mésentente, une querelle, un trouble entre diverses personnes dans l'Église. Et l'apôtre Paul situe dans cette section de son épître, cette intervention, on le voit triste et tourmenté et en colère en même temps. Le chapitre 6 de 1 Corinthiens fait partie d'une section dans l'épître de Paul aux Corinthiens qui s'intitule « Division et scandale ». Au chapitre 1, Paul écrit « Mes frères, j'ai appris à votre sujet qu'il y a des discordes parmi vous. Je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y ait pas de division parmi vous. » Au chapitre 5, il écrit « Vous êtes enflés d'orgueil. » Et au chapitre 6, il explose. Il est fâché, c'est pourquoi que les points d'interrogation et d'exclamation surviennent et surgissent de partout dans ce texte. Je lis le verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ose-t-il? C'est un mot très fort qui veut dire a-t-il l'audace? C'est un mot très fort qu'il utilise. L'audace de quoi? Eh bien, l'apôtre Paul parle qu'il y avait dans l'Église, supposons, deux chrétiens, deux frères dans la foi, qui sont là, qui ont un conflit, un différend. Et il dit qu'ils ont recours aux infidèles et non aux saints. Les infidèles, ici, ça veut dire les non-croyants. Les saints, ce sont les croyants. L'apôtre Paul dit, en d'autres mots, lorsqu'il y a dans l'Église deux personnes qui ont un différend, ils doivent le régler à l'intérieur de l'Église en se faisant aider par les autres chrétiens et non pas en allant en dehors de l'Église pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes parmi ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. À Corinthe, ce n'était pas ce qui se faisait. Donc, au verset 6, « Mais un frère plaide contre un frère devant les non-croyants. » Autrement dit, Paul dit, c'est une démarche, c'est un non-sens, ça n'a aucun bon sens, c'est inapproprié que le peuple de Dieu fasse appel au monde impie pour essayer de régler ses problèmes. Et quel mauvais témoignage c'est aussi. Les non-chrétiens devraient, par le spectacle des enfants de Dieu, être attirés à Jésus-Christ. Mais ici, ils sont pris comme juges, témoins et juges d'un manque d'amour fraternel dans l'Église. Et Paul, il se poigne la tête à deux mains, comme on dit, puis il dit, ça n'a aucun bon sens. C'est une honte, dit-il au verset 5. une honte, et on sent toute sa tristesse et sa colère en même temps. Ce matin, j'aimerais attirer notre attention, plus particulièrement sur le verset 7 que je relis maintenant. « Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » Vous savez comme moi que des « pourquoi » on en a beaucoup, nous, qu'on adresse à Dieu. Pourquoi si? Pourquoi ça? On en a des « pourquoi », des pochetés de « pourquoi ». Eh bien, voici deux « pourquoi » que Dieu lui-même nous adresse par l'intermédiaire de son serviteur, l'apôtre Paul. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Regardons quelques éléments de ce verset 7. Premièrement, notez dans le verset 7 le mot « défaite ». Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. On pourrait traduire un échec. Les conflits entre chrétiens qui persistent et qui ne se règlent pas selon la parole de Dieu sont une défaite. Ils montrent des chrétiens qui finalement se sont laissés embarqués dans une escalade d'engrenage, de refus d'amour fraternel. Et c'est une défaite, c'est un échec parce qu'ils ont manqué une occasion en or d'exercer l'amour qui dure, l'amour qui supporte tout, comme dit 1 Corinthiens 13, 7. Ils ont été défaits, ils ont échoué, dit l'apôtre Paul. Toute l'Église est abîmée. Disons, le climat de l'Église dans cette situation que Paul évoque fait en sorte que le moral des troupes est à son plus bas parce qu'il y a chicanerie, conflit, guéguerre entre les uns et les autres. Et Paul essaye de faire comprendre aux Corinthiens que c'est dévastateur pour l'Église, pour le bien de l'Église, pour ce que l'Église doit incarner en quelque sorte. La victoire se situe dans la pratique de l'amour qui supporte tout, qui triomphe de tout, comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné. Les conflits entre chrétiens dans les églises sont aussi une défaite parce qu'ils affectent négativement la mission de l'Église. Nous avons la mission d'incarner l'amour du Seigneur pour nous et d'aller proclamer cet amour. L'Église est perdante devant le tribunal de l'opinion publique. Elle fait une très mauvaise publicité pour le Christ Jésus et pour l'Église et l'Évangile, lorsqu'il y a une absence d'amour qui supporte tous les obstacles. Ça endurcit encore plus les incroyants. On ne voudrait pas ça, on ne voudrait pas donner au diable l'occasion de se réjouir, mais lorsque nous entretenons et vivons des situations conflictuelles où nous ne réglons pas les choses selon la parole de Dieu, nous laissons le diable triompher, en quelque part, dans ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à ses yeux, c'est une honte, c'est un scandale, ça ne devrait pas exister. Et les chrétiens se transforment, comme ils vont un petit peu plus loin, en désaveu de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi si souvent les gens de l'extérieur critiquent les chrétiens en disant « vous êtes des hypocrites hein? ». Ça arrive, ça. Par le témoignage de notre vie, les gens devraient voir clairement en nous l'espérance d'une vie qui met le focus sur des choses beaucoup plus importantes que gagner notre point, qu'avoir raison, que de vouloir toujours avoir le dernier mot. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important que tout? Ce qui est plus important que tout, c'est l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, nous sommes perdus pour toujours, nous sommes condamnés à l'éternité malheureuse. Mais grâce à lui, nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Grâce à lui, la condamnation, elle est enlevée. Ce qui est plus important que tout, c'est Jésus-Christ et c'est l'Évangile. Si nous manquons d'amour les uns pour les autres, si nous avons un mauvais témoignage parce que nous ne sommes pas en mesure de nous entendre, si nous nous querellons, nous donnons une image très négative aux gens de l'Évangile et de la famille de Dieu. Et nous nuisons à des personnes qui voudraient tellement s'approcher de Jésus-Christ, mais c'est comme si on les repousse par notre attitude. En 1 Corinthiens 3, 3, l'apôtre Paul écrit « Puisqu'il y a parmi vous de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine, ça marche comment des humains qui vivent dans l'humanité déchue, qui ne sont pas chrétiens, ça marche comment? Ça se chicane, ça a des conflits qui ne se règlent jamais, ça se fait des procès, ça se poursuit en justice, ça commère les uns contre les autres et ça reste là. Souvent, pas toujours, mais souvent, c'est le cas. Et Paul, il dit, « Puisqu'il y a parmi vous la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? » Nous vivons à une époque où les poursuites judiciaires sont tellement nombreuses et répandues qu'on peut avoir un canal de télévision où on en regarde 24 heures par jour, 365 jours par année. Peut-être qu'il n'y a jamais eu, peut-être dans l'histoire, cet esprit de revendication, de poursuite les uns contre les autres. Peut-être qu'il n'y en a jamais eu autant. L'apôtre Paul veut nous faire comprendre qu'une telle démarche ne doit jamais effleurer l'esprit des chrétiens. Jamais. Mais c'est l'amour qui doit triompher. Une défaite. Je veux que vous vous souveniez de ce mot-là. Une défaite. Ou si vous préférez, un échec. La victoire, ce serait quoi? J'avance à mon deuxième point. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Dit l'apôtre Paul. Ouch! Ça, ça fait mal. C'est une question qui nous est douloureuse. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? S'il y a quelque chose contre laquelle notre nature ne veut pas aller dans ce sens-là, c'est qu'une injustice soit faite contre nous et qu'on la supporte. Cette question de Paul ne nous plaît pas. C'est une question que personne ne veut entendre. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? On trouverait facilement une longue liste de « parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que ». Le mot « injustice » ici couvre un large éventail de conduites variées de toutes sortes qui blessent autrui. Par exemple, ça peut être tout simplement qu'une personne qui vous est proche parle de vous d'une manière inexacte à une autre personne, on vous le rapporte, bien, c'est une sorte d'injustice, mais je suis sûr que vous pouvez penser vous-même dans votre propre vie à des situations où il y a eu des injustices qui ont été faites contre vous. Vous aviez, par exemple, une super bonne intention de faire une chose qui plaît à Dieu, mais quelqu'un a mal interprété votre intention et là, ça devient tout croche et on vous critique, etc., etc. Donc, il y a toutes sortes d'exemples dans nos propres vies où il y a des injustices qui sont faites contre nous. Face à une injustice contre nous, nous sommes très sensibles à la notion de justice. Et c'est compréhensible et c'est correct parce que Dieu est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice, un Dieu dont le règne est basé sur la justice. Notre Sauveur a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Mais la réalité, c'est que nous vivons dans un monde détraqué, brisé, déchu, plein d'injustices. L'apôtre Pierre écrit, « Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Nous attendons, nous ne sommes pas encore sur une terre où habite la justice. D'où la phrase qu'on entend quasiment chaque semaine, les gens disent, « Il n'y a pas de justice. » Ça veut dire un peu la même chose qu'ici. Nous ne sommes pas rendus sur la terre où la justice habitera, donc les injustices abondent ici, maintenant. Nous ne devons pas en commettre, mais nous en commettons. Les autres ne devraient pas commettre des injustices contre nous, mais ils en commettent contre nous. L'injustice est une souffrance. Ça fait mal. Souvent, ça fait très mal. Mais si un frère dans la foi commet une injustice contre nous, dit Paul, le texte qui est devant nous ce matin, il nous exhorte à endurer patiemment l'injustice, à pratiquer cet amour qui supporte tout, dont il parle en 1 Corinthiens 13, 7. La meilleure prévention des querelles dans une famille, dans une église ou dans un groupe, c'est la disposition à supporter des injustices. C'était, par exemple, l'esprit manifesté par Abraham quand il a donné la meilleure part du pays à son neveu Lot dans cette première lecture que nous avons faite. C'était l'esprit de Joseph lorsqu'il a accueilli et embrassé ses frères qui lui avaient fait tant de mal. Il l'avait rejeté, donc il leur a pardonné. C'était l'esprit que David a manifesté lorsqu'il a épargné la vie du roi Saül à plusieurs reprises, alors que Saül avait été si méchant contre lui. C'était l'esprit d'Élisée lorsqu'il a nourri des gens de l'armée ennemie. C'était l'esprit qu'Étienne a manifesté lorsqu'il a pardonné à ceux qui le lapidaient et qui a prié pour eux. C'était l'esprit de l'apôtre Paul, il écrit 1 Corinthiens 4:12. Nous bénissons alors que nous sommes insultés. Persécutés, nous supportons. C'était l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, notre grand sauveur, qui nous a tellement aimés alors qu'on lui crachait dessus, qu'on le frappait. Il n'a pas ouvert la bouche. C'est aussi l'esprit qui doit nous animer. Nous, chaque chrétien. On pourrait se demander quelle est la dernière fois que nous avons supporté une injustice. Et est-ce que nous désirons le faire souvent pour justement ne pas que l'Église soit défaite, mais qu'elle soit victorieuse? Quand nous supportons les injustices, nous entrons en quelque sorte dans la vraie signification de la croix de Jésus-Christ. Peut-être on pourrait dire, c'est pas réaliste, c'est pas faisable, c'est pas possible, mais détrompons-nous. Le Seigneur nous appelle à avancer dans cette direction. Paul écrit en Éphésiens 1, « Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin qu'ils sachent quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Où trouvons la force de pratiquer 1 Corinthiens 6-7, c'est par la force souveraine de Dieu, la grandeur surabondante de sa force. C'est là que nous allons trouver la force par l'action souveraine de Dieu en nous, par son esprit. De passer à de « je ne veux pas » à « je veux », de « je ne peux pas » à « je peux ». Car Dieu donne le vouloir et le faire. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Par l'œuvre puissante et efficace de l'Esprit-Saint, nous sommes rendus capables de marcher sur le chemin de vie que le Seigneur nous désigne. Il travaille à éveiller et à travailler en nous pour développer la liberté d'observer sa parole et de lui ressembler. Le Saint-Esprit a le projet de faire triompher dans nos vies l'obéissance à la parole de Dieu. Il œuvre pour que notre propre volonté s'harmonise avec la volonté de Dieu qui est exprimée dans sa parole. Il besogne en nous pour que nous aimions ce que Dieu aime, pour que nous voulions ce que Dieu veut, pour que nous choisissions ce que Dieu ordonne. Avançons maintenant à notre troisième point. Troisièmement, pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Ouch! Re-ouch! Voilà une autre question choquante pour nous, pour notre sensibilité. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? S'il y a quelque chose qui est contraire à notre sens des valeurs, c'est bien de nous laisser dépouiller de notre temps ou d'argent ou diverses choses. Pourtant, celui qui agit de la sorte marche sur les traces du Seigneur Jésus. En Philippiens 2, il est écrit ceci. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. » Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est dépouillé. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Ce précepte évangélique est un comportement qui implique, de la part de la personne qui a été offensée, une maturité spirituelle. Ça suppose que le Saint-Esprit a déjà fait une œuvre profonde de régénération dans le cœur. En particulier, ça implique que toutes les questions d'amour-propre avec lesquelles nous sommes tellement souvent poignés ont été désamorcées par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit travaille à produire ce beau fruit dans nos vies. Celui qui se laisse dépouiller a été libéré de la préoccupation de soi. Et c'est une grâce. Nous sommes tellement préoccupés par nous-mêmes, nos biens, nos opinions, nos possessions, nos droits, nos libertés, nos choses, que nous sommes prompts à trouver des excuses pour écarter les consignes de la parole de Dieu. Plusieurs pensent que défendre leurs droits, c'est la plus grande vertu qui existe. Mais non, la plus grande vertu, c'est l'amour, dit la Bible. Quel amour, quelle sorte d'amour! Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour qui consiste à faire du bien envers des personnes dont nous n'avons pas raison de leur faire du bien, et même faire du bien envers des personnes envers lesquelles nous avons des raisons de ne pas leur faire du bien. Ça inclut ça aussi, cet amour-là. Plusieurs croyants n'ont pas atteint ce degré de, disons, de détachement et de générosité. Ils choisissent de demander réparation, faire des poursuites, d'exiger des excuses, de planifier des représailles. Ils sont prêts à livrer des batailles jusqu'à la mort, des batailles souvent très déplaisantes pour gagner leur point, avoir raison à tout prix. Mais Paul enseigne que celui qui, par amour, est capable de rendre le bien pour le mal, lui, il fait mieux, enseigne l'apôtre Paul. Il ne fait finalement que revenir au sermon sur la montagne de Jésus, c'est ce qu'il transmet ici. Il est naturel pour nous de vouloir se défendre contre l'injustice et de riposter, mais quand nous sommes doux et humbles de cœur devant les injustices des autres, nous marchons sur les traces du Seigneur Jésus. Nous lui ressemblons. Le Fils de Dieu s'est dépouillé. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Nous ne devons pas oublier que dans notre expérience, nous-mêmes avec Dieu, nous avons connu Dieu, disons, de cette manière-là, c'est-à-dire que nous étions profondément injustes et Dieu nous a manifesté son amour hyper généreux. Nous étions haïssables, détestables et Dieu nous a montré son amour. Nous ne méritions pas qu'il nous accueille les bras ouverts et voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a été miséricordieux. Et Jésus dit en Luc 6, « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. » Comportons-nous envers les autres, envers nos frères dans l'Église, puisqu'il est d'abord et avant tout ici question dans le contexte des frères, des sœurs dans l'Église. Comportons-nous donc envers eux comme Dieu se comporte envers nous. Dieu veut que ses enfants lui ressemblent. Si je suis incapable de supporter une injustice, peut-être je connais peu de choses de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de son amour pour moi. Si vous pensez que vous avez été victime d'une injustice, qu'il n'y a personne d'autre qui n'a jamais été victime d'une telle injustice, rappelez-vous du Seigneur Jésus. Vous a-t-on craché dessus? Vous a-t-on fouetté? Vous a-t-on crucifié? Non, bien sûr, le Seigneur Jésus a subi tout ça par amour pour nous. Jésus a été traité de cette manière, il n'a pas ouvert la bouche. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Il s'est dépouillé lui-même. Dit l'apôtre Paul, Seigneur, donne-nous la même disposition d'esprit qui était dans le Seigneur Jésus. Bien-aimés, apprenons à supporter des injustices avec amour, patience et douceur. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 9, 12, « Nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Dieu. Nous supportons tout. Souvent, nous nous irritons bien trop vite, bien trop facilement. Nous nous estimons lésés parce que nous nous estimons beaucoup trop. Nous nous accordons beaucoup d'importance et nous aimerions que les autres nous accordent autant d'importance à nous que nous nous accordons à nous-mêmes. Notre tendance est d'avoir une préoccupation excessive sur nous-mêmes, le regard souvent tourné sur notre nombril. Pas étonnant que nous trouvions insupportable la pensée d'avoir à supporter une injustice. notre promptitude à nous sentir blessés, notre rapidité à être offensés sont des attitudes très, très répandues dans la société en général. Mais elles sont contraires à l'esprit du Christ Jésus. Heureusement que Jésus est plus aimant que nous. La prière « Que ton règne vienne » nécessite le corollaire « Que mon règne disparaisse ». Nous avons besoin de nous dépréoccuper de notre petite personne. Et c'est un choix que nous pouvons faire chaque jour devant les injustices. Les deux, plus tôt dans le verset 7, nous indique qu'il y a ce choix-là. Pourquoi ne pas plus tôt? Celui à qui j'en veux parce qu'il a été injuste envers moi est devant Dieu comme moi, un pécheur. Je suis dans le même sac que lui. Je suis souvent injuste moi-même. Oui, il a été injuste envers moi, mais moi-même, je suis souvent injuste. On est deux pécheurs, des pécheurs pardonnés. Et la gratitude que nous avons pour Dieu devrait nous permettre de nous pardonner, d'aller de l'avant. Certains craignent que supporter une injustice, c'est nécessairement s'en rendre complice, cautionner le mal, et encourager des abus ultérieurs. L'offenseur pourrait penser que son acte n'est pas grave. Ça peut arriver. Il faut être prudent. Que Dieu nous donne sagesse et intelligence dans notre façon d'agir. Parfois, confronter la personne injuste est tout à fait nécessaire. Et c'est la chose à faire. Mais pas toujours. Paul ne disculpe pas ceux qui commettent des injustices comme s'il disait « c'est pas grave ». Il dit au verset 9 de notre texte que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais son point au verset 7, c'est celui d'un chrétien qui a été lésé par un frère dans la foi. S'il veut réagir en disciple, Dieu l'appelle à manifester sa liberté par une qualité de réaction qui portera le bien à triompher du mal. Adopter une telle posture, bien sûr, c'est prendre le risque de se faire traiter de paillasson. Particulièrement dans notre société où la défense des droits est poussé à son maximum. Mais quand on vit de cette manière, on n'est pas un paillasson, on est un disciple de Jésus-Christ. On marche sur ses traces, on fait ce qu'il nous dit. Nous devons aimer la cause de notre Sauveur plus que nous aimons nos intérêts personnels. Nous devons vivre d'une manière qui indique aux autres que le plus grand et précieux trésor de tous, c'est le Christ Jésus. Lui-même et son évangile. Pour conclure, souffrance, injustice, dépouillé, notre Sauveur Jésus a connu ces réalités. Comment a-t-il pu vaincre ces souffrances? Et comment nous allons-nous pouvoir supporter les injustices d'une manière victorieuse? Réponse dimanche prochain. Dieu voulant. Amen.